quelque chose en toi, c'est de l'intime dans le militantisme.
Pour montrer qu'on peut changer le monde sans être le Che Guevara ou Greta Thunberg.
Pendant mes études, comme beaucoup de gens, je travaillais l'été, je faisais des petits boulots. Et une année, j'ai travaillé dans un centre d'appel téléphonique. Et mon boulot, c'était d'appeler des gens dont le prénom dans l'annuaire semblait être le prénom d'une personne âgée. C'était ça ma consigne. Et d'essayer de les faire venir à un événement pour leur vendre des séries de poils. Et j'ai trouvé cette expérience vraiment horrible. Déjà, c'était harassant. Il y avait devant moi quelqu'un qui m'écoutait et qui me coachait comme si j'étais en train de faire un match de basket. Et surtout, ça n'avait pas de sens, quoi. J'allais vendre à des gens des choses dont ils n'avaient pas besoin. Aussi, un peu jouer sur leur solitude parce qu'ils étaient ravis qu'on les convie à un événement parce qu'ils étaient, pour certains, déjà veufs ou veuves et seuls chez eux. Donc, je me suis dit que vraiment, j'espérais que plus tard, j'aurais la chance de ne pas faire un boulot qui était à la fois aussi pénible et un peu néfaste, quoi.
Est-ce que c'est une fille ?
Oui.
Ok. Est-ce qu'elle a des lunettes ?
Oui.
Eh bien, moi, je m'appelle Lisa Derulliano et je travaille pour une coopérative d'énergie renouvelable qui s'appelle Enercoop, pour la coopérative qui est implantée dans les Pays de la Loire. Et je suis chargée d'animer la vie coopérative.
Bon, Lisa, bienvenue à GTFM. Pendant l'année internationale des coopératives, quelle chance d'avoir ici Enercoop, coopérative française, mais aussi très connue au niveau européen, référent dans l'énergie. C'est un vrai plaisir pour ce programme. Et on en profite dans ces dernières émissions pour remercier toute l'équipe des GTFM pour nous avoir formés, à Marie et à moi, pour nous avoir accompagnés. Et spécialement Jonathan, dans la technique, qui a eu beaucoup de patience. Et particulièrement dans ces derniers mois et dans ces dernières années dans lesquelles la culture dans notre région est menacée, on veut défendre ce que fait cette radio pour la culture et pour nous tous. Donc, Lisa, on rentre dans les détails. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton activité, ses valeurs, son structure ?
Avec plaisir. Alors, je travaille pour Enercoop Pays de la Loire, qui est une des 12 coopératives du réseau des coopératives Enercoop. C'est un réseau qui existe depuis près de 20 ans déjà, qui a été fondé par Greenpeace, la Nef, Leclerc, enfin un certain nombre d'acteurs de la transition énergétique et de l'économie sociale et solidaire plus largement, au moment où le marché de l'électricité en France, il a été ouvert à la concurrence. Et l'idée, c'était surtout pas de se substituer au service public, mais plutôt de pallier une lacune qui apparaissait à ce moment-là, c'est-à-dire que la puissance étatique française investissait tout son argent dans le développement de l'énergie nucléaire et il y a un certain nombre d'acteurs qui voulaient montrer qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait développer les énergies renouvelables le faire de manière décentralisée. Donc le projet, dès le départ, c'était d'essaimer sur tout le territoire français. Et donc moi, je bosse pour une structure qui est à l'échelle des Pays de la Loire, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. C'est un statut un peu particulier. C'est une entreprise, mais de l'économie sociale et solidaire, qui fonctionne comme une entreprise classique, donc qui doit avoir une certaine rentabilité économique, mais qui poursuit un intérêt général et dont le but n'est pas de renflouer les poches des actionnaires, qu'on appelle des sociétaires dans les coopératives, mais bien d'investir dans sa mission, qui est, pour ce qui nous concerne, de développer les énergies renouvelables sur le territoire français.
Et comment vous bossez alors avec des producteurs d'énergie renouvelable ? Comment ça se passe et comment ça vient contribuer au modèle d'Enercoop et aussi au développement des territoires, j'imagine ?
Alors, il y a deux axes. D'une part, on négocie des contrats avec des producteurs d'énergie renouvelable qui sont situés exclusivement en France. Donc aujourd'hui, on contractualise avec près de 400 producteurs. Alors, je n'ai plus les données les plus récentes, mais autour de 400 producteurs d'énergie renouvelable qui sont situés en France en direct, sur des contrats plutôt de long terme, pour leur permettre une certaine stabilité. Donc on peut faire le parallèle avec les circuits courts alimentaires pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre. L'idée, c'est bien de limiter le nombre d'intermédiaires et de contractualiser en direct avec les producteurs. Donc ça, c'est le premier axe. Et par ailleurs, on développe nous-mêmes de nouvelles unités de production d'énergie renouvelable, donc dans les Pays de la Loire. Notre coopérative régionale, elle existe depuis près de 6 ans maintenant. On a développé 6 parcs solaires dans le Maine-et-Loire et en Mayenne, et on continue à le faire dans, dans tous les départements de la région. On investit aussi dans des projets éoliens. L'idée, c'est petit à petit d'asseoir nos capacités de production et surtout de pouvoir être moins exposés aux fluctuations du marché de l'électricité dont on a tous beaucoup souffert les dernières années. Ce marché, il est très fluctuant, il est très dépendant de la géopolitique et pour le moins sensible depuis très longtemps. Mais là, je pense que ça s'accélère, on le voit tous. Et donc, l'idée, c'est aussi de nous développer nos propres moyens de production pour maîtriser le prix. Puisque quand on contractualise avec les producteurs, les 400 producteurs dont je vous parlais, ben on est malgré tout influencé par ce marché de l'électricité qui fonctionne comme une bourse assez classique. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer en parallèle ces deux curseurs.
Et qu'est-ce que ça a de particulier alors d'être une coopérative dans cet univers-là? C'est peut-être bien que tu nous expliques un peu où va l'argent, comment ça se passe.
Alors, donc, comme je le disais, les coopératives, elles appartiennent à des sociétaires. C'est un peu l'équivalent des actionnaires dans les entreprises plus classiques, pour faire un parallèle qui parle à tout le monde.
Et ces sociétaires, c'est les clients?
Alors, ces sociétaires, ils sont de différents ordres. Ils appartiennent à différentes catégories. L'idée, c'est de mettre autour de la table toutes les catégories de personnes et de structures qui participent au projet. Donc, d'une part, les clients de l'offre d'électricité, puisque Enercoop, c'est un fournisseur d'électricité comme un autre, comme EDF. Vous pouvez tout à fait décider d'alimenter votre maison, votre entreprise, avec un contrat d'électricité chez Enercoop, donc il y a beaucoup de clients. On fait intervenir aussi dans la coopérative donc les producteurs d'électricité renouvelable, mais aussi les collectivités territoriales qui ont un très fort rôle à jouer pour développer les énergies renouvelables, les salariés qu'on voit au chapitre également, les partenaires, etc., etc. Et donc, très concrètement, le gros avantage de statut de coopérative, c'est que quand on va fixer le prix de notre électricité, donc le prix que vont payer nos clients, on va fixer un prix qui, à la fois, couvre les coûts de production pour les producteurs qui nous vendent leur électricité, mais aussi qui soit soutenable pour les consommateurs. Donc, on est vraiment dans une co-décision, dans la recherche permanente du compromis qui satisfera le plus de parties prenantes possible. Donc ça, c'est très spécifique. Et notre idée à nous, et ça, c'est une idée qui est très forte depuis la constitution du réseau Enercoop il y a 20 ans, c'était de faire entendre aux gens que les questions énergétiques, elles sont centrales, elles sont cruciales dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On aurait du mal à se passer d'énergie. Et que pendant très longtemps, on nous a fait croire que c'était hyper complexe. Il n'y avait que des technocrates, des ingénieurs sortis des plus grandes écoles d'ingénieurs qui pouvaient comprendre comment ça fonctionnait. Que tout ça se décidait à Paris, que c'était très opaque. Et donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens puissent s'emparer de ces questions-là. Donc, on a un rôle d'éducation populaire. Et c'est plus spécifiquement mon métier à moi. C'est faire en sorte que, petit à petit, on se forme à comment ça fonctionne le marché de l'électricité, très concrètement, pourquoi le soleil peut produire de l'énergie sur des cellules photovoltaïques, etc., etc., pour qu'on puisse participer aux décisions qui nous concernent de manière plus éclairée.
Et comment est-ce que vous travaillez aussi, je vais dire, avec des autres structures dans l'énergie, similaire à Enercoop? Je pense que aussi Enercoop fait partie des licornes, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Alors, on est très investi dans principalement deux écosystèmes. L'écosystème relatif à l'énergie, donc on travaille avec des structures qui s'investissent sur des questions comme la précarité énergétique, l'association Leclerc. Enercoop aussi a fondé un fonds de dotation qui s'appelle Énergie Solidaire, qui finance des associations qui luttent contre la précarité énergétique. Mais plus concrètement, en fait, quand on va investir sur des gros projets d'énergie renouvelable, ça représente beaucoup d'argent, même si nous, souvent, on est sur des tout petits projets à l'échelle de ce qui peut se faire. Mais ça représente quand même toujours beaucoup d'argent. Et par ailleurs, l'idée, c'est toujours d'aller développer des projets avec le territoire. Donc, ces six parcs solaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, on ne les a pas développés tout seuls. On les a développés avec les collectivités locales, avec des sociétés d'économie mixte à l'échelle des départements concernés, avec Énergie Partagée que tu as cité, qui est un fonds d'investissement qui permet aux citoyennes et aux citoyens de consacrer une partie de leur épargne au financement des énergies renouvelables, mais aussi avec des associations localement qui font de la sensibilisation sur le respect de l'environnement et sur la transition énergétique. Voilà, on va toujours aller s'insérer dans un tissu d'acteurs et surtout veiller à ne pas faire ce que font déjà des gens sur les territoires sur lesquels on intervient. Donc c'est pour ça qu'il y a des activités qu'on ne développera pas, qui seraient très intéressantes, mais qui sont déjà très, très développées par ailleurs. Donc ça, c'est le premier champ, le champ de l'énergie. Et puis, notre autre grosse mission, c'est de faire avancer ce modèle économique alternatif qui est celui des coopératives, qui est une alternative au capitalisme classique tel qu'on le connaît et qui nous domine aujourd'hui. Et donc, on a développé notamment une alliance il y a quelques années qui s'appelle les licornes avec deux O. Donc, c'est un clin d'œil pas très subtil aux autres licornes qu'on connaît, qui sont cotées en bourse. Et donc, ça rassemble un certain nombre de coopératives qui œuvrent plutôt dans des domaines de la vie quotidienne. L'idée, c'est d'avancer ensemble pour montrer encore une fois qu'un autre modèle économique est possible, qu'on peut choisir pour son opérateur de téléphonie, son alimentation, son électricité, sa mobilité, etc. On peut toujours choisir une alternative un peu plus vertueuse d'un point de vue du modèle économique. Et voilà, donc ça a quelques années. Déjà, je n'ai plus la date de création en tête. On doit être sur 4-5 ans, je dirais. Et on fait du plaidoyer aussi ensemble pour faire évoluer notamment le cadre législatif et qu'il nous soit un peu plus favorable.
Tu es une invitée parfaite pour nous, puisque Léré travaille dans le monde plutôt coopératif et moi dans le monde de la transition énergétique. Donc, c'est parfait pour terminer. On est comme des poissons dans l'eau. C'est
exactement,
génial.
On est toutes contentes. On sourit.
Et en plus, c'est fait
la série sur les gâteaux, c'est un peu ça. On dit comme ça en français, non?
Est-ce que vous identifiez des enjeux dans les années qui viennent?
Il y a plusieurs enjeux. En toute transparence, un des enjeux, c'est faire en sorte que les gens n'utilisent plus que le critère prix pour choisir leur fournisseur d'électricité. Encore une fois, on peut faire le parallèle avec le secteur de l'alimentation. Quand on s'alimente et quand on en a les moyens, on ne va pas forcément toujours au moins cher, mais on fait des choix qui sont liés à la qualité du produit qui nous est proposé, à la façon dont il a été produit, à la façon dont la personne qui l'a produit est rémunérée, etc. Et dans le secteur de l'électricité, en fait, on pourrait faire les mêmes choix, mais c'est beaucoup plus difficile de se les formaliser, parce qu'en fait, quand on branche sa lampe dans la prise, il y a du courant, quoi. Et la lampe, elle s'allume pareil, qu'on ait choisi Enercop ou qu'on ait choisi un autre fournisseur un peu moins regardant sur l'électricité qu'il achète. Donc, on a un gros boulot de pédagogie à faire autour de ça. Par ailleurs, c'est un budget qui est important, le budget de l'énergie dans les foyers aujourd'hui. Voilà, il y a des vraies questions à traiter. On a conscience que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ces choix-là non plus. Il y a un gros souci autour de la précarité énergétique que tu connais bien, Marie. Il y a aussi des gens qui aimeraient faire ces choix-là, mais qui vivent dans des foyers qui sont des vrais passoires et donc qui ne leur permet pas le moindre surcoût. Donc ça, c'est le premier défi. Et puis l'autre défi, c'est de participer au développement des énergies renouvelables sur notre territoire. On a à cœur d'optimiser les espaces dégradés pour développer des petits parcs solaires. Donc on va typiquement aller développer des parcs solaires sur d'anciennes décharges, d'anciennes stations d'épuration, des délaissés routiers ou des délaissés qui sont à proximité des lignes de TGV. L'idée, c'est de vraiment d'utiliser des terrains qui ont déjà été transformés par l'homme, qui n'ont pas d'usage agricole. Et donc de mettre des panneaux solaires pour produire de l'électricité et à terme de développer des boucles locales d'électricité, donc que l'électricité qui est produite, elle soit consommée directement par les collectivités locales du coin ou les habitants à terme. Voilà, c'est une vision d'un peu plus long terme, mais le projet, c'est ça.
Ah, vous êtes des communards.
C'est ça.
va passer du on au je. Parce que, explique-nous, toi, effectivement, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu fais concrètement chez Enercop, Pays de la Loire? C'est quoi ton travail? Tu fais de l'animation, de la sensibilisation, d'après ce qu'on comprend, mais est-ce que tu peux détailler peut-être un petit peu plus
c'est ça.
Ce que tu fais au quotidien?
Tout à fait. Alors, je travaille déjà en binôme avec un collègue qui s'appelle Ziad. On est deux sur ces missions-là et on a deux casquettes. La première, c'est de faire de la communication. Donc, ça, je m'étends pas, c'est assez classique et je pense que ça... ça parle pas mal aux auditeurs et aux auditrices. Et l'autre volet, donc, c'est d'animer la vie coopérative. Et ça, c'est un petit peu plus spécifique à nos structures. Donc, en fait, Enercop Pays de la Loire appartient à ces 3500 sociétaires qui, pour certains, comme je le disais, sont très, très au fait des questions énergétiques parce que pour certains, ils bossent dans ce secteur. Vous-même, je crois que vous êtes à titre personnel sociétaire, donc voilà, vous seriez plutôt dans cette catégorie-là. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup de sociétaires qui ne connaissent rien à ces questions. Donc, une partie de notre travail, c'est de faire en sorte qu'on vulgarise ces questions-là. Donc, ça passe par l'organisation, par exemple, de visites de parcs solaires ou de parcs éoliens pour expliquer comment ça fonctionne, mais aussi de webinaires sur des questions à la fois très spécifique sur la transition énergétique, mais aussi un petit peu plus largement sur les autres façons de faire et de vivre. Récemment, on a proposé d'aller visiter un habitat partagé, par exemple, à Nantes Sud. Par ailleurs, la particularité d'une coopérative, c'est que donc chaque personne qui est sociétaire, qui est copropriétaire de la coopérative, dispose d'une voix. Et donc, on prend les décisions en assemblée générale. Selon le principe, une personne égale une voix. Donc, qu'on ait pris 10 000 parts sociales et qu'on ait investi beaucoup d'argent dans la coopérative ou qu'on n'en ait pris qu'une, on aura le même poids dans les décisions. Et donc, notre travail, ça va être de faire vivre cette démocratie interne pour que ce soit véritablement les sociétaires qui décident des orientations qui sont prises par l'entreprise dans son secteur d'activité, dans sa façon de mener les projets.
Et comment tu es arrivée là-bas, Lisa ? Quel est ton cheminement dans ta vie ? Comment tu es arrivée à Enercop ?
D'où tu pars?
Ouais, c'est effectivement pas très original. Enfin, moi, il n'y a pas de point de rupture dans mon parcours. Mes deux parents, ils sont retraités maintenant, mais ils étaient enseignants, donc ils étaient dans la fonction publique. Je pense que j'ai jamais vraiment envisagé de travailler dans une entreprise privée classique avec un but purement lucratif, parce que c'était pas l'exemple que j'avais chez moi. Donc c'était un assez finalement, je suis restée dans la droite ligne de ce que je voyais à la maison. Et j'ai d'abord bossé pendant un peu moins de 10 ans dans le domaine de la solidarité internationale. J'ai fait des études en sciences politiques et j'avais très envie de voyager, de travailler dans des ONG, etc. Comme c'était très à la mode à l'époque, donc je l'ai fait, c'était intéressant. Et voilà, et puis en fait, mon dernier boulot dans ce secteur-là, je voyageais beaucoup, je partais beaucoup en mission sur le terrain. Et en toute sincérité, c'était très fatigant, donc il y a eu une envie de revenir un peu me poser en France. Et puis il y avait aussi de temps en temps... un truc qui commençait à poindre, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses à faire déjà localement sur le territoire sur lequel moi je vivais et que par ailleurs j'avais peut-être pas beaucoup de légitimité à venir dire ce que je disais quand j'allais au Burkina Faso, au Congo, etc., etc. Donc bon, tout ça a fait que j'ai cherché à me réorienter un peu en France et donc je me suis dirigée vers l'économie sociale et solidaire. Mais la continuité dans mon parcours, c'est que j'ai toujours travaillé plutôt sur des missions d'animation de réseaux, que ces réseaux ils soient constitués d'associations de lutte contre le sida, comme ça a été le cas avant, ou de personnes qui développaient les circuits courts alimentaires, ou aujourd'hui de sociétaires Enercop, mais finalement toujours dans une logique plutôt d'éducation populaire et de faire vivre une certaine intelligence collective.
De mettre les gens en lien pour essayer d'avancer dans une direction bien précise, quoi.
Exactement. Et toujours, en fait, j'ai jamais bossé dans un domaine dans lequel moi j'étais spécialiste, puisque je suis spécialiste de rien. C'est un peu la frustration quand on sort de Sciences Po. Et alors, ça m'a très longtemps complexée. Et maintenant, je me dis que c'est aussi ce qui fait ma force sur ce genre de mission. C'est que probablement que si moi, je comprenais très exactement comment fonctionnait la production d'électricité renouvelable, j'aurais un peu plus de mal à l'expliquer. Moi, je vois mon rôle plutôt comme ramener un peu mes collègues sur Terre quand ils partent sur des explications trop techniques et essayer de placer le curseur au bon endroit entre nourrir les gens qui ont déjà beaucoup de connaissances sur ces sujets, mais aussi ceux qui n'y connaissent rien et qui ont envie de se former, quoi. Pendant longtemps, je me disais, moi, j'ai envie d'aller intervenir auprès de publics qui ne sont pas déjà conquis, qui ne sont pas non plus trop, trop éloignés des sujets qu'on traite. Mais typiquement, précédemment, j'ai bossé pour un réseau de circuits courts alimentaires. Mon objectif, c'était plutôt de détourner les gens des supermarchés que de proposer une solution à des gens qui allaient déjà acheter leurs produits aux producteurs locaux des petits marchés. Voilà, bon, ça a ses limites, mais je vais un peu dans le sens de ce que tu dis, quoi. J'ai l'impression quand même que si on reste dans notre entre-soi de gens très militants, bah, on va pas peser grand-chose économiquement. Mais voilà, c'est toujours un équilibre difficile à trouver, quoi. Ouais. Réussir à amener plus de gens vers ces questions-là, sans pour autant perdre son âme et se dévoyer. Est-ce qu'on continue à faire de la com sur des réseaux sociaux qui appartiennent à Meta pour toucher plus de gens, ou est-ce qu'on n'est que sur des réseaux sociaux libres et éthiques, mais on touche personne?
Moi, je trouve aussi que, par exemple, le sport collectif de nos enfants, je trouve que là, c'est un... Tu vois, c'est un...
C'est un creuset.
Clairement, là, il y a un mélange de tout. Et c'est là aussi que je pense qu'il y a... Il y a un vivier pour peut-être ramener des gens, parce qu'en effet, moi, je te suis. Mais parler aux convaincus, c'est très bien, ça nous rassure et ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien des fois quand même.
Ça fait du bien, on dit quand même, on n'est pas fou et on n'est pas si peu. Mais quand même, si on veut changer les choses, en effet, il faut, comment dire, des postes comme ça qui puissent convaincre, faire comprendre déjà et ensuite... faire adhérer, quoi. Tu vois, donc à ce niveau-là, je vois bien que ton parcours, c'était bien sur ce fil-là.
C'est marrant que tu parles de ça, parce que je disais, le fil rouge de mon parcours, c'était plutôt mettre les gens en lien, etc. Moi, je joue au basket depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans, et je pense que ça a été assez fondateur dans les choix que j'ai fait après, ou alors l'inverse, je sais pas dans quel sens s'est passé le processus, mais depuis toujours, je suis dans une équipe avec des gens qui sont très différents les uns des autres, et pour le coup... Moi, je trouve que, je ne sais pas si je suis la seule comme ça, mais je suis beaucoup dans un entre-soi, que ce soit le lieu où on travaille toutes les trois, le Solilab, qui est hyper agréable, mais voilà, dans lequel on ne se mélange pas beaucoup. L'endroit où j'habite, les gens que je côtoie, même les parents des enfants qui sont à l'école avec les miens. Enfin, il y a finalement relativement peu de mélange. En revanche, au basket, j'ai toujours joué avec des gens très différents, avec des personnes très différentes les unes des autres. Et c'est vital, je trouve, de... Ouais. Voilà, je fais un apéro avec mes potes, on a tous amené que des trucs bio, je vais un apéro au basket, j'amène des chips bio et là tout le monde rigole et je suis la risée de l'équipe pendant 3 semaines. Bah, ça me fait du bien aussi de me rappeler que la vraie vie, c'est pas que celle qu'on connaît. Enfin, en tout cas, qu'elle n'est pas représentative, ce qu'on peut oublier quand on est toujours un peu dans les mêmes milieux.
C'est sûr. Donc du coup, tu es... en train de travailler plutôt sur des questions humanitaires et tu as envie de rester, de revenir en tout cas sur le territoire métropolitain parce que tu es fatiguée. Et alors, c'est quoi la suite?
Et bien après, j'ai repris une formation dans le secteur de l'ESS qui n'était pas passionnante à vrai dire, mais qui est en alternance et qui m'a permis de faire mon alternance dans un réseau de circuits courts alimentaires qui s'appelle La Ruche, qui dit oui. Et puis, à l'issue de cette alternance, j'ai été embauchée. Je suis venue ouvrir l'antenne Grand Ouest qui n'existait pas à l'époque. C'était le tout début du projet. Voilà, j'y suis restée quelques années. C'était hyper intéressant. Pour le coup, moi, j'ai appris plein de choses sur le secteur de l'agriculture, sur le fonctionnement des circuits courts alimentaires. J'ai revu aussi pas mal d'idées que j'avais sur la question. Et je pense avoir une vision moins simpliste que je ne l'avais quand je suis arrivée. Voilà, et puis j'étais à titre personnel cliente et sociétaire de NERCOP depuis un bon moment déjà, je me souviens plus comment, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai un contrat d'électricité, il est chez NERCOP, c'est pas tout à fait vrai mais presque. Et il se trouve que à ce moment-là, il y a des gens qui sont mobilisés à l'échelle de la région pour monter la coopérative dans les Pays de la Loire qui n'existait pas encore. Donc il y a un petit groupe dont faisait partie Samuel que vous avez déjà interviewé, qui s'est mobilisé, qui a écrit un plan d'affaires, qui a mené une étude de marché, enfin qui a étudié si c'était opportun. Et moi, je ne faisais pas partie de ce groupe, mais j'ai filé quelques petits coups de main ponctuels sur la com, etc. Et quand la coopérative s'est formellement montée, il y a un poste qui semblait correspondre un peu à ce que je faisais qui s'est monté. Et voilà comment je suis arrivée dans la coopérative quelques mois après sa création.
Ça fait pas si longtemps que ça que la coopérative existe.
Non, ça fait 6 ans.
Oui, non, ah, si, ça commence du coup.
Ça commence à faire, ouais, mais c'est là. En tout cas, c'est la dernière des coop. Enfin, à l'échelle du réseau Enercoop qui a 20 ans, c'est jusqu'à très récemment, c'était la petite dernière. Il y en a une qui vient de se créer en Bourgogne, mais on était les petits derniers depuis longtemps. Et puis bah, là, l'équipe s'est étoffée. On est maintenant 12, 13, non, même 13, je ne sais plus, j'arrive plus à suivre le fil. En tout cas, petite quinzaine, on va dire.
Ça a bien grandi, ça a bien grandi.
Ça a bien grandi, ouais. On est sur une, ouais, on est sur une toute autre forme que celle que moi j'ai connue au début. Et c'est chouette, c'est exaltant. C'est chouette aussi, à vrai dire, que l'équipe s'étoffe et que du coup, on ne soit plus couteau suisse toute la vie, parce que c'est à la fois passionnant et aussi un peu fatigant. Mais voilà, on développe de nouvelles activités. Ça fonctionne bien avec les contraintes qu'on connaît toutes et tous. Mais j'y suis bien, en tout cas.
Na rabuda que manda no requebrar. A criola que goia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Que manda não se quebrar. A crioula que cuia te ama, te beija pra viajar.
Quoi qui profondément t'a attiré, parce qu'en fait il y a quand même une continuité assez nette dans ton parcours et qui continue à te motiver au quotidien, les motivations un peu profondes qui t'animent, les valeurs que tu retrouves là-dedans et qui te parlent, quoi, qui font que tu es fière en fait, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais
si, ouais, je suis assez fière
de parler de ton travail et voilà de ce que tu fais.
Moi, je trouve déjà qu'on travaille tous beaucoup, même quand on travaille que 35 heures, ça reste quand même une part de nos vies. Conséquente, et que c'est une chance de que ce temps-là on le consacre à quelque chose qui peut-être nous passionne pas à chaque minute, à chaque seconde, mais pour le coup moi j'ai quand même l'impression de pas faire de mal, et ça je me dis c'est déjà pas mal,
c'est vrai, clair.
On l'oublie peut-être, mais voilà, et ce qui continue de me passionner, c'est que on se pose tout le temps des questions, quoi. C'est très, pour le coup, le dialogue en interne est toujours très nourri, alors ça prend du temps, ça se frite, on discute, on met longtemps à construire à prendre les décisions, parce qu'on les construit ensemble, mais au final, une fois qu'elles sont prises, elles sont plus solides, on sait pourquoi on les a prises, et ça, je trouve ça très très formateur. Et par ailleurs, c'est une chance, j'ai appris plein de choses chez Enercop dans la façon de faire les choses et de prendre les décisions que je réutilise dans ma vie à côté, dans plein d'autres cercles. Voilà, et puis par ailleurs, je pense, comme beaucoup de gens aujourd'hui, je trouve ça très angoissant, le monde dans lequel on vit. Même si je suis très consciente de la modestie de mon impact, je ne me verrais pas faire quelque chose qui me semble complètement vain. Je n'ai pas du tout de jugement pour les gens qui font ça et qui ont une occupation professionnelle qui n'a pas forcément de sens à leurs yeux. Mais voilà, moi, je n'arriverais pas, je crois, à me motiver tous les jours.
Surtout quand tu as un peu goûté à ça.
Oui, voilà, c'est ça. C'est la chance que j'ai eue, c'est que, à de rares exceptions, je n'ai jamais eu à faire un boulot qui me paraissait absurde. Et c'est une vraie chance, encore une fois. Mmh. Et du coup, le retour en arrière me paraîtrait vraiment compliqué.
Est-ce que si on se projette et on rêve un peu, on peut se permettre ça ?
Allez, on essaye.
Si c'est que tu fais à Enercoop, Lisa, de valer la norme dans ces pays qu'on dit, dans ces mondes qui est, bon, qui est en train de se rendre encore plus compliqué, plus négatif, qu'est-ce que ça pourrait devenir ? Comment ça pourrait changer la donne ?
Alors, ce n'est pas du tout par ordre de priorité et d'importance, mais je me dis déjà, si tous et toutes, on avait la chance de bosser dans des structures qui sont respectueuses de leurs salariés, ou en tout cas qui réfléchissent à ces questions-là en continu, déjà, ce serait bien plus confortable, je pense. Il y a un truc assez fort autour du rapport à l'argent, quoi. Nous, on ne bosse pas pour gagner de l'argent, alors il ne faut pas qu'on en perde non plus. Hein. Encore une fois, c'est une coopérative, c'est une entreprise, donc on n'est pas subventionné. Il faut qu'on rentre dans nos frais, mais ça change complètement la façon de voir les choses. Typiquement, on développe plein d'outils pour que nos clients de l'offre d'électricité ils réduisent leur consommation d'électricité, donc on se tire une balle dans le pied, en fait, ouais. Puisque moins ils consomment et moins on gagne d'argent. C'est très schématique ce que je viens de dire, mais dans les grandes lignes, ça, on peut se permettre de le faire parce qu'on est une coopérative. Alors, d'autres fournisseurs d'électricité bossent aussi là-dessus, mais je pense de manière moins soutenue. Tout le travail qu'on fait, nous, localement, d'aller sur le terrain, d'organiser des formations, de sensibiliser les gens, de les faire participer à la gouvernance, etc., ça, c'est pareil, ça coûte de l'argent et on se permet de le faire parce que notre but ultime, ce n'est pas de rémunérer des actionnaires.
Imaginons qu'on est à ton pot de départ dans 30 ans et tu dois raconter à tes collègues une anecdote qui t'a marqué, quelque chose qui symboliserait éventuellement ou un moment hyper sympa que t'as vécu ou au contraire hyper énervant que t'as pu vivre dans le cadre de ton métier. Qu'est-ce que ça pourrait être ?
J'ai en tête un collectif avec lequel on a bossé dans le Maine-et-Loire récemment qui s'appelle Hélocyte. Il est constitué de gens qui, pour beaucoup, ne bossent pas dans le secteur de l'énergie. Ils se sont retrouvés à un même ciné-débat organisé sur leur territoire il y a quelques temps et ils se sont rassemblés autour de cette volonté de faire quelque chose sur leur territoire. Il se trouve que c'était l'énergie, mais je pense, j'en ai pas parlé avec eux, mais que ça aurait pu être autre chose.
Ah oui ?
Et on a bossé avec eux on continue de bosser avec eux sur le développement d'un parc solaire à Jarzé-Village, au nord d'Angers.
Donc ils sont venus vous chercher à l'issue de ces débats ?
Non, on a plutôt été les chercher. Enfin, en tout cas, on avait ce projet de parc, ils étaient là. Enfin, la rencontre s'est faite au bon moment. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Il y a une énergie toujours débordante, il n'y a jamais de problème, que des solutions, et avec des gens très différents les uns des autres, que ce soit au niveau de leur âge, de leur background professionnel. On parlait de ne pas être dans un entre-soi. Moi, je trouve ça chouette, justement, de pouvoir bosser avec des gens qui, pour certains, sont agriculteurs, alors que je ne bosse plus du tout dans ce secteur-là, pour d'autres enseignants, ingénieurs, etc., et qui arrivent le soir, se mettent autour de la table pour faire bouger les choses dans leur village. Je trouve que c'est hyper inspirant.
Ah bah oui, c'est super. Et le projet a vu le jour ou il est en cours
Le projet a vu le jour et on est en train de créer une extension de ce parc solaire. Sa capacité va doubler, sa puissance va doubler. Wow. Et ça se fait grâce à l'investissement de ce collectif et Hélocyte qui, sur le terrain, organise des réunions publiques, des visites de la centrale qui est déjà en service pour expliquer comment ça marche, comment les gens peuvent contribuer financièrement à faire en sorte qu'on construise l'extension. Ils incarnent vraiment localement le projet et ça, c'est hyper appréciable de pouvoir s'appuyer sur eux.
Ça fait déjà un petit moment qu'on discute et donc on arrive au moment où on va clôturer la dernière émission de la saison, effectivement, avec toi, Lisa. Et on a l'habitude de se quitter sur un petit morceau musical que notre invité du jour nous propose de découvrir. Et c'est très riche pour nous à chaque fois. J'ai découvert plein de musique magnifique au cours de toute cette année là, d'émission. Est-ce que tu en as choisi une ? Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête, peut-être à l'issue de cet échange ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'inspire, cette chanson ?
Ouais, je vais vous partager un truc que j'écoute pas mal en ce moment. C'est un groupe, je ne sais pas si on peut qualifier ça de punk, un peu punk, belge, qui s'appelle Ada Oda. Et une chanson qui s'appelle Domani, que je trouve... très très chouette, qui me donne de l'énergie. J'ai découverte dans une newsletter de Stereolux. J'ai pas pu aller voir le concert, mais pour le coup, la chanson m'a plu. Donc, je vous propose de clôturer avec ça.
Merci pour ça, Lisa.
Merci beaucoup.
On écoute.
Vous venez d'écouter Quelque chose en toi, une émission proposée par Marie Moisson et Leire Luengo.
Diffusée sur Jet FM tous les deuxièmes mercredis du mois à midi et en podcast sur le site de la radio jetfm.fr. On espère que ça vous a inspiré et que ça va vous donner vous aussi envie de vous lever et de vous engager.